Reges Tarsis et insule munera offerent, reges arabum et sabadona aducent, et adorabum teum omnes reges terre, omnes gentes servientei. Les rois de Tarsis et des îles offriront des présents. Les rois de l'Arabie et de Saba lui apporteront des dons et on l'adorera de tous les rois de la terre l'adoreront et toutes les nations le serviront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette annonce solennelle de ce qui s'est passé est tirée d'une prophétie du psaume 71 du roi David. Et elle annonce donc que tous les rois de la terre l'adoreront et que toutes les nations le serviront. Et de même, dans le passage du prophète Isaïe que nous lisons aujourd'hui, nous voyons qu'il était prédit que vers Jérusalem viendrait une inondation de chameaux, il faut croire que cette caravane était importante, donc un flot de chameaux, et que l'on viendrait porter au Messie de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est pour cela que l'épiphanie a été et demeure une des plus importantes fêtes de l'année liturgique. Puisqu'il n'y a que trois fêtes dans l'année liturgique qui ont un cycle, c'est l'Épiphanie, la fête de Pâques et la Pentecôte. L'Épiphanie préparée par le temps de l'Avent et par la fête de Noël, et puis après il y a les dimanches après l'Épiphanie. La fête de Pâques préparée par le Carême, et puis après il y a les dimanches après Pâques. Et puis la fête de la Pentecôte préparée par les fêtes de Pâques et de l'Ascension, et après il y a tous ces longs dimanches après la Pentecôte. Et si cela reste sur le plan liturgique, donc une des principales fêtes, c'était beaucoup plus vrai encore dans l'Antiquité. Au tout début du christianisme, on ne fêtait encore pas Noël parce que on n'avait pas encore retrouvé les registres romains sur lesquels la date était fixée, du moins en Orient, on ne le fêtait presque pas, alors qu'on commençait à la fêter à Rome. Et la fête par laquelle on fêtait l'incarnation de notre Seigneur, c'était justement l'Épiphanie, la manifestation glorieuse de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, si cela a tant tenu au cœur des premiers chrétiens, c'est parce que c'était la fête, en quelque sorte, de la conversion des nations. Jusque-là, les nations étaient dans le paganisme, dans l'idolâtrie, parce que les hommes, plusieurs fois, s'étaient déjà relâchés, malgré le terrible châtiment du déluge. Et pour faciliter les choses, Dieu avait choisi un seul peuple pour en faire le gardien de ses oracles et de ses vérités et de ses annonces. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi c'est dans ce peuple que Dieu a suscité des prophètes qui ont annoncé ce qui allait se passer quand le Messie allait arriver. Le Messie, on l'attendait depuis Adam, puisqu'il avait été annoncé à Adam dès le début. Et tous les détails de la vie, de la passion, de la résurrection et du règne de notre Seigneur ensuite sur les nations sont annoncés dans les prophéties. Et voyez, on en a encore un symbole dans la fête même d'aujourd'hui et dans l'évangile d'aujourd'hui. Comment les nations ont-elles été attirées à notre Seigneur Jésus-Christ ? Elles ont été au début attirées principalement par les miracles. Elles ont été bouleversées par la puissance que Dieu avait donnée à ses apôtres, par lequel ils ont ressuscité des morts, fais voir des aveugles, entendre des sourds et des muets, fais marcher des paralysés, et c'est tous ces miracles, même déplacer des montagnes, c'est tous ces miracles qui ont profondément étonné les païens et qui ont commencé à les faire, alors prendre au sérieux ce que les apôtres annonçaient. Mais ensuite, ces païens, où ont-ils été chercher les oracles pour connaître la loi de Dieu et pour connaître ce qui était annoncé de ce divin Messie? Eh bien, de la même manière, voyez les mages, qui étaient des rois, mais des rois de peu d'importance, si l'on peut dire, c'est-à-dire il y avait beaucoup en Orient de petits royaumes qui étaient composés d'une ville principale et quelquefois seulement de quelques bourgades autour, ou quelquefois d'une ville principale puis de 10 ou 20 petites villes autour, et ça constituait un royaume. Donc ce sont certainement des rois de ce genre, et non pas des rois importants encore. Et voyez-vous, eux aussi sont attirés vers ce petit enfant qui vient de naître par un grand miracle. C'est cette étoile dont nous parle l'Évangile, qui n'était pas comme les autres, et comme ils étaient des astrologues, ils observaient les étoiles, eh bien ils avaient été frappés par cette étoile. Et ils l'avaient été d'autant plus que, fait rarissime, un de leurs ancêtres, qui était pourtant un païen, avait fait une prophétie par l'Esprit-Saint. Tandis qu'il voulait maudire Israël, il avait été obligé par l'Esprit-Saint, Balaam, de dire le contraire et de dire « Une étoile sortira de Jacob et elle guidera tous les peuples ». Cette étoile, elle représente bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'étoile du matin, mais en même temps, elle annonçait ce fait singulier de l'étoile. Et comme ces rois étaient les descendants de Balaam, et que donc cette prophétie était connue parmi eux, ils ont fait le lien entre les deux, et ils sont venus en la suivant. Puis ce sont, quand ils l'ont vu approcher de Jérusalem, au lieu de continuer à la suivre, ils ont cru que, puisqu'on va voir un roi des Juifs, il est normal d'aller à Jérusalem, et ils n'ont plus suivi l'étoile, ils sont allés à Jérusalem, et là ils l'ont perdu l'étoile. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont interrogé le roi Hérode en lui disant, il y a le grand roi des Juifs qui vient de naître, où est-il? Nous venons avec des présents pour l'adorer. Et ce roi Hérode, que va-t-il faire? Il va être impressionné par cela, parce qu'ils leur ont dit qu'ils avaient vu une étoile, et vous comprenez que trois rois qui arrivent avec des centaines de chameaux et des familiers et tout ça, c'était pas tous les jours qu'on voyait ça, c'était la première fois même qu'on en entendait une chose pareille. Alors ils se tournent vers les princes des prêtres et vers les scribes, et il leur dit, il est annoncé qu'il doit arriver un grand roi, parce qu'il était complètement ignorant, il était iduméen, il n'était pas juif. Et c'était là encore un des signes qui était annoncé. Quand le sceptre, avait dit Jacob à ses fils en les bénissant, quand le sceptre sortira de Judas, parce qu'il avait prédit que ce serait Judas qui dirigerait ses frères, alors viendra celui qui était annoncé. Alors le sceptre n'était plus entre les mains des Juifs, mais d'un étranger, un Iduméen, installé là par la puissance romaine. Et donc, c'était une marque de plus que le temps du Messie était venu. Alors cet étranger, qu'est-ce que c'est que ça? Il doit venir un grand roi. Mais où doit-il donc naître? Et les scribes et les pharisiens, sans hésitation, lui disent, eh bien, c'est le roi Messie qui est annoncé. Il naîtra à Bethléem, parce qu'il était écrit dans le prophète Michée, et toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite des bourgades de Juda, parce que c'est de toi que sortira le chef que j'ai prédit comme devant venir. Et donc, c'est à Bethléem qu'il doit naître. Et là, voyez combien le Seigneur fait bien les choses aussi, parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et c'est aussi dans la maison du pain, la maison où l'on vénérera un pain transsubstantié, où le Dieu Tout-Puissant qui s'était montré sous les apparences d'un enfant, ben, se montrera sous l'apparence d'une petite hostie, eh bien c'est là qu'il va résider, effectivement, le divin sauveur, dans l'avenir. Et voyez comment ces païens, ces étrangers, sont renseignés par les Écritures des Juifs. Ils sont attirés par un miracle, mais après, ils sont renseignés par les prophéties. Et alors, ils se redirigent vers Bethléem, tout contents, et là, ils retrouvent l'étoile. Et alors, avec une foi extraordinaire, ils ont beau voir un petit enfant dans une maison, certainement qu'il était déjà plus dans l'étable à ce moment-là, mais dans une maison toute simple que les bergers ont dû mettre alors à la disposition de la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, à défaut des gens de leur famille qui ne les avaient pas reçus, eh bien, ils l'ont retrouvé là, tout petit enfant, mais avec les signes extraordinaires qu'ils avaient vus, ça leur a suffi, ils avaient la foi, et ils se sont mis à genoux devant ce petit enfant. De même qu'il va falloir aux nations une foi extraordinaire pour penser que c'est un crucifié qui est le roi des rois. Regna vite aligno Deus avait annoncé encore un psaume. Dieu règnera par le bois. Imaginez la gloire pour Dieu que ce soit lui crucifié, un homme crucifié qui est régné sur le monde entier par la foi et par l'Église catholique. Et puis, ce qui est non moins extraordinaire, c'est que l'on va voir toutes les nations marcher à sa suite et l'on va voir tous les rois plier le genou comme ces premiers rois mages devant la petite hostie. Il leur fallait aussi de la foi, comme il nous en faut à nous aussi. Nous en avons des quantités de témoignages. Il y a eu après, dans la suite des siècles, de nombreux miracles eucharistiques. Mais c'est avant tout la foi et la foi seule qui nous l'apprend. Alors comment s'est réalisée cette prophétie citée tout à l'heure en Exode? Tous les rois l'adoreront et toutes les nations le serviront. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Là, et c'est pour ça que les premiers chrétiens attachaient si grande importance à cette fête, parce que dans les personnes des rois mages, il y a déjà l'embryon de ce qui va se réaliser après dans toute la chrétienté. C'est-à-dire des rois qui viennent déjà adorer l'enfant Dieu. Et en même temps, ce sont des rois qui ne sont pas juifs, ce sont des païens convertis. Et bien là, ça va être les nations qui vont se convertir. Alors, comment cela va se faire? Eh bien, d'abord par les miracles que les apôtres vont faire, puis ensuite par la prédication des prophéties. Pourquoi? Parce que pour faciliter les choses, Dieu ayant permis que les Juifs soient endurcis et, à part un petit nombre, ne se convertissent pas et rejettent le Messie, parce qu'ils attendaient un grand guerrier qui les fasse dominer temporellement, hein, alors que lui c'est un royaume spirituel qu'il vient nous donner, un royaume de bonnes mœurs, un royaume de belles pensées, un royaume de vertu, un royaume d'amour de la pauvreté, d'amour de la chasteté, toutes ces choses que les humains ne sont pas portés à aimer par eux-mêmes, parce qu'ils préfèrent la facilité et le laisser aller. Alors ils l'ont rejeté, mais les nations, vous croyez qu'elles étaient dans un meilleur état que les Juifs à l'époque? Non, parce que les Juifs, ils avaient quand même les 10 commandements qu'ils tâchaient de respecter. Et ces 10 commandements, le respect de ces 10 commandements, les mettait déjà à un niveau moral bien plus élevé que les autres peuples. Les autres peuples, c'était la débauche, c'était la saleté, c'est dont nous avons malheureusement maintenant que trop l'image étalée sous nos yeux, mais qui n'était plus connue du monde depuis si longtemps. Il y a bien eu des crises momentanées dans telle région et autres, mais une telle pourriture qui commence à redevenir universelle, c'était devenu inconnu. Mais à cette époque-là, de l'Empire romain, c'était presque pire. Parce que c'était de la débauche sacralisée, mise sur les autels, avec Apollon, avec Vénus, etc. C'était le vice mis sur l'autel. Hein? Et les bacchanales, toutes ces choses-là, c'était des ripailles sacrées et tout ça, où on se donnait à des orgies et des choses, des saletés. Et vous comprenez que un peuple qui était plongé là-dedans, depuis des siècles, eh bien, il a fallu des choses puissantes pour le convertir. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de même que les rois ne se sont pas rendus du jour au lendemain. Il y a une lutte terrible entre ceux qui étaient touchés par la grâce de Dieu et qui étaient complètement transformés, l'étoile représente aussi la grâce de Dieu, hein, ceux qui, comme les mages, étaient transportés vers notre Seigneur, et puis les autres qui disaient « Oh, vous nous embêtez à nous empêcher de nous empiffrer, de boire autant et plus, et puis qu'est-ce que c'est que cette nouvelle morale qui nous empêche de faire l'adultère, qui nous empêche de faire la fornication comme nous voulons, qui prétend que nous devons... être honnête dans les prix que nous faisons, que nous ne devons pas maltraiter nos serviteurs, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle morale? Ils n'en voulaient pas. Et qu'est-ce qui en est passé? C'est que les premiers chrétiens n'étaient pas des dégénérés comme nous. Hein? C'est que ils tenaient dur, ils tenaient ferme. Ben, vous ne voulez pas, mais c'est comme ça que ça doit être. Le Christ doit régner. L'Évangile doit régner. La vertu doit régner. Alors si on leur faisait des menaces, on menaçait de leur prendre leur bien, de leur faire paix de leur situation, de les rejeter de leur famille, et puis comme ça ne suffisait pas, ben, il n'y avait plus qu'une seule chose, on les mettait en prison, dans des prisons horribles où il n'y avait aucune ouverture, pas d'air, pas de lumière, très peu de nourriture pour pas qu'ils meurent tout de suite, hein. Et puis là, on essayait de les faire plier leur volonté, de les écraser. Et puis malgré tout, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des femmes et des messieurs âgés, des hommes virils, tous, eh bien, il y en a évidemment qui craquaient pendant un moment, puis qui se reprenaient après, mais un grand nombre, et bien résister. Et ils résistaient, alors, comme ils devenaient insupportables à cette société corrompue, et bien on les a massacrés. Et c'est comme ça qu'il y a eu les 10 vagues de persécution pendant les 3 premiers siècles, et donc les 300 premières années de l'histoire de l'Église, cette vague de persécution générale qui a été ordonnée, édictée par les empereurs romains eux-mêmes. Et les empereurs romains, ils le supportaient d'autant moins qu'ils voyaient grandir de plus en plus le pouvoir moral des pontifes romains. Et les premiers pontifes romains que l'on a tant décriés, que les sectes ont tant décriés, eh bien, être élu pontife romain à cette époque, c'était être élu martyr. Parce que dans les 3 premiers siècles, presque tous les papes sont morts martyrs. Et en général, ils ne duraient pas longtemps. 3 ans, ils arrivaient à se cacher dans les catacombes. 3 ans, 4 ans, des fois c'était au bout de quelques semaines seulement qu'ils se faisaient prendre. Et dès qu'ils étaient pris, c'était fini. Alors, et malgré tout, eh bien, ils se reproduisaient, et malgré tout, le christianisme avançait, et les empereurs en étaient impressionnés. Vous voyez, un Dioclétien, qui est celui qui a fait la dernière grande persécution générale et la plus terrible de toutes, que voulez-vous qu'il ne soit pas impressionné? Il avait des chrétiens partout dans son palais. Alors, un jour qu'ils avaient vu massacrer un autre,
il y en a un de ses serviteurs qui disait, ça suffit, je ne peux plus supporter ça, moi aussi je suis chrétien. Ah, alors il était surpris de voir qu'un de ses chambriers était chrétien. Après c'était le chef de sa garde personnelle, Saint-Sébastien. Ah, lui aussi il est chrétien. Et puis de tous les côtés, il voyait des chrétiens. Et puis il vient à maltraiter le diacre Saint-Cyriac. Et ce clerc, que fait-il pour le remercier de l'avoir fait des tourments, eh bien, il guérit sa fille qui était possédée du démon. Alors après, il l'envoie à un autre persécuteur, Sapor, le roi de Perse, qui pour plaire à l'empereur Dioclétien faisait une persécution encore plus sanglante que dans l'Empire romain. Et le même Saint-Cyriac, il a aussi délivré la fille du roi Sapor, qui était possédée du démon également. Et le roi Sapor, qui était un grand massacreur de chrétiens, qui a, lui aussi a massacré des gens tout autour de lui, parce que lui aussi, dans sa famille, dans ses familiers, tout partout, il avait des chrétiens. Après qu'il les avait massacrés, il a été vraiment touché par cet acte de charité de quelqu'un qui appartenait à cette église qu'il avait tant persécuté, et lui s'est converti. Dioclétien, lui, ne s'est pas converti, mais il a donné sa démission. Et c'est son fils adoptif Maximien, qu'il avait d'ailleurs poussé dans la persécution, qui a continué et qui a, pour remercier Saint-Cyriac, l'a martyrisé. Hein? Et c'est le successeur, enfin un des successeurs de Dioclétien, Constantin, qui, le premier, mis en difficulté par Maxence, a invoqué le Dieu des chrétiens parce que il a vu la croix lui apparaître dans le ciel et il savait bien que c'était le signe des chrétiens. Et alors, il a vu marquer « Per oxinium vices, par ce signe tu vaincras ». Alors il a fait vœu que s'il gagnait, eh bien il autoriserait le christianisme. Et alors il a gagné et c'est ce qu'il a fait car l'empereur Constantin a seulement, mais c'était déjà énorme, a seulement autorisé les chrétiens à pouvoir prendre leur culte publiquement. C'est tout ce qu'il a fait, mais c'était déjà énorme. C'est tout ce qu'il a fait, pas vraiment. C'est tout ce qu'il a fait au niveau politique et public, social, mais il a fait quelque chose d'encore beaucoup plus grand, c'est qu'il s'est lui-même converti. Que lui-même, il est venu au pied de Saint-Sylvestre, que lui-même, il a demandé au pape Saint-Sylvestre de lui donner le baptême, que il a offert au pape Saint-Sylvestre son propre palais du Latran, car Saint-Jean du Latran, c'est le palais de Constantin transformé en basilique, du moins c'est un des bouts du palais où l'empereur avait été baptisé et qu'il a voulu donner pour faire cette grande basilique mère et maîtresse de toutes les églises à Rome, Saint-Jean du Latran, qui était donc le palais de Constantin. C'est aussi lui qui est venu pour bâtir Saint-Pierre du Vatican, la première basilique, c'est aussi Constantin, et c'est lui qui a bâti aussi toutes les plus grandes, les premières basiliques de Rome, l'empereur Constantin. Donc voilà le premier roi, et c'était pas n'importe qui, c'était le roi des rois dans l'Antiquité, si on peut dire, qui portait donc deux couronnes, c'était l'empereur le plus puissant de la terre qui, le premier, s'est donné au Christ et qui a commencé à autoriser l'érection d'église et qui lui-même a donné l'exemple en le faisant. Cependant, ce n'était pas encore fini. Ses premiers successeurs ont marché, mais doucement et fragilement dans cette même voie. Mais il y avait encore le Sénat romain, les sénateurs, il y avait des païens encore partout, puissants, et l'Empire n'était pas encore gagné, bien que déjà, comme je vous l'ai dit, puisque déjà sous Dioclétien, il y en avait partout, des chrétiens, jusque dans la maison de César, eh bien, le christianisme était déjà devenu la première religion, mais le paganisme était encore solide. Et c'est tellement vrai qu'un des descendants de Constantin, Julien, qu'on a appelé l'apostat parce qu'il avait été baptisé, qu'il était chrétien, il est revenu au paganisme. Et il a essayé de faire repasser l'Empire au paganisme, soutenu par le Sénat, soutenu par tous les prêtres des idoles et autres, et il a fait encore une persécution sanglante à nouveau, qui a été la dernière persécution. Et puis, il a essayé de faire rebâtir le temple de Jérusalem pour faire mentir la prophétie de notre Seigneur qui dit qu'il n'y restera pas pierre sur pierre. Et alors, il a fait enlever les fondements et tout du temple. Hein? Et puis, au moment où ils ont voulu rebâtir, il y a eu des globes de feu qui sont tombés. Il y avait un saint évêque de Jérusalem et qui l'avait d'ailleurs annoncé qu'il ne pourrait pas le faire. Et c'est lui qui a réalisé la prophétie en voulant la faire rater, puisque c'est lui qui a enlevé les derniers fondements qui étaient encore très solides de l'ancien temple. Et puis après, eh bien, c'est surtout avec l'empereur Théodose le Grand, qui était né en Espagne, mais certainement de citoyen romain, que l'Empire la religion chrétienne est devenue la religion de l'Empire. En 390, l'empereur l'a fait passer comme loi au Sénat, comme quoi le christianisme devenait la religion d'État. Donc jusque-là, c'était seulement une tolérance, vous voyez. Et c'est donc le premier État qui est devenu vraiment chrétien, c'est l'Empire romain lui-même. Alors après, les barbares s'étaient plus ou moins donnés au Christ aussi, mais un Christ galvaudé, puisque c'était le Christ prêché par les Ariens, c'est-à-dire un surhomme, si vous voulez, mais qui n'était pas vraiment le Fils de Dieu et qui n'était pas Dieu. Et tous les Visigoths, Ostrogoths, etc., ils étaient ariens. Et comme l'Empire était en train de basculer sous leur coup, le bon Dieu, pour protéger la société chrétienne naissante, a suscité, dans les conditions semblables à celles de Constantin d'ailleurs, puisque c'était aussi au moment d'une bataille, « Seigneur, si vous me donnez la victoire contre les Alamans, déjà les Alamans, bon, eh bien, je croirai que vous, le Dieu de mon épouse Clotilde, vous êtes le vrai Dieu. Et alors je me convertirai. » Et alors, comme il a eu la victoire, alors qu'il il était vraiment en train de perdre, il s'est converti, il est allé trouver Saint-Rémy, et puis, eh bien, la France est devenue la fille aînée de l'Église. Pourquoi? Parce que par ce roi-là, qui a battu tous les rois ariens, eh bien, c'est l'orthodoxie catholique qui s'est imposée à nouveau. Et c'est pour ça que la France est la fille aînée de l'Église, parce qu'elle est la première nation moderne, tandis que l'Empire romain était en train de s'écrouler et de passer, si on peut dire, au pontife romain, mais de devenir spirituel et plus temporel. Eh bien, les nouvelles nations ont suivi l'exemple de Clovis, et c'est à partir de la France que, eh bien, le catholicisme s'est à nouveau répandu en tant que religion d'État, c'est-à-dire en tant que les nations adhèrent à notre Seigneur. Et voyez, dans cette grande lutte, les empereurs romains, ils avaient un petit peu tous dans leur cœur cette phrase, cet aveu du premier d'entre eux, Kaiser, d'où en allemand Kaiser pour l'empereur, César, qui est venu le premier des empereurs, si l'on peut dire, et qui disait, je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. C'est-à-dire que c'était des dominateurs, et comme devant cette autorité morale extraordinaire que les pontifes romains s'étaient acquis par cette chaîne de martyrs, il se sentait tout petit et mal à l'aise. Constantin lui-même, qui pourtant avait fait venir le catholicisme, eh bien, ils ont commencé à construire Constantinople à l'autre bout de l'Empire et à s'installer à Constantinople. Un petit peu plus loin, ils sont restés chrétiens. Théodose lui-même était à Constantinople ou à Nicée ou à Milan, mais on quittait Rome parce qu'on se sentait trop petit devant le pontife romain. Et voyez comment, avec quel courage, les prédicateurs ont fait respecter les choses. C'est que, par exemple, vous avez Saint Ambroise de Milan qui interdit à l'empereur Théodose de rentrer dans l'église de Milan parce qu'il avait réprimé trop sauvagement une révolte qui avait eu lieu en Orient, une émeute. Alors, au début, l'empereur, il a accepté, il a essayé de venir, malgré tout, en se disant il n'osera pas. Alors, dès que Saint-Ambroise est arrivé, là-dessus, il est venu en ornement pontificaux avec sa crosse et il s'est mis devant la porte avec son clergé. Autrement dit, si vous voulez rentrer, passez-moi sur le corps. Alors, quand l'empereur a vu ça, il l'a certainement regardé dans les yeux, Saint-Ambroise l'a regardé dans les yeux aussi. Une lutte d'influence morale, si vous voulez, entre les deux hommes, c'était très important, parce que si l'empereur prenait mal les choses, eh bien, il pouvait redevenir un persécuteur. Et puis, comme il avait quand même la foi, alors il a retourné les talons. Et puis, de contrariété, il est resté plusieurs semaines, tout en restant dans la ville de Milan, sans mettre les pieds à l'église. Parce que qu'est-ce qu'il fallait pour venir remettre les pieds à l'église, il fallait qu'il aille se mettre avec les pécheurs publics et qu'ils viennent demander pardon à l'évêque publiquement. Alors pour un empereur, c'était terrible. Alors il a eu du mal à s'y résoudre, et certainement qu'il a eu un immense mérite devant Dieu, parce qu'il a donné l'exemple après à tous les autres rois, hein, et c'est lui qui après, touché par cette fermeté de l'évêque, et c'est lui qui après a fait du christianisme la religion d'État, c'était pas encore fait. Alors il est venu et il s'est mis comme pénitent, et alors Saint Ambroise l'a mis au milieu des pécheurs publics pendant un temps, l'a laissé faire sa pénitence publique, et après il l'a réadmis à la communion. Et alors là, à partir de là, on a vu que le Christ régnait vraiment, parce que les rois eux-mêmes commençaient à respecter la loi de Dieu et à s'y soumettre. De même que les clercs, dans les choses de l'État, dans les choses temporelles, obéissaient à l'empereur, évidemment, et étaient ceux qui le prêchaient le plus la soumission, non seulement la soumission à des empereurs de bonne qualité, mais etiam discolis, même ceux qui sont mauvais, dit saint Paul, pour autant qu'ils ne fassent que des commandements qui sont justes, évidemment. Et voyez, on retrouve la même chose. Après, ça c'est au IVe siècle, on retrouve après avec Saint Jean Chrysostome, qui lui était évêque de Constantinople, donc le siège où les empereurs s'étaient réfugiés pour pas avoir l'ombrage des pontifes romains. Et qu'est-ce qu'il disait en chaire, donc il prêchait et l'empereur était là, que vous, les clercs, dans l'Église, vous avez autorité, même sur les officiers, les gens couronnés et autres, ils ont rien à faire dans le cœur. Le cœur, c'est les clercs. Et là, pour les choses de Dieu, vous n'avez pas sur eux. Et de même que, par contre, en dehors, pour les choses civiles, eh bien, vous devez absolument obéir, que vous soyez prêtre ou même évêque, vous devez obéir. Non seulement au roi, mais même à son représentant dans la ville où vous êtes, etc. Et toutes les lois justes, vous y soumettre et donner l'exemple à votre troupeau. Et bien, à partir de ce moment où de telles choses étaient acceptées, et bien, le Christ vraiment a commencé à régner. Et ça a été la chrétienté, où il y a eu une fusion et une union entre l'État et l'Église. L'État adhérent à l'Église, on a parlé de séparation de l'Église avec l'État, c'est une expression complètement fausse, ça a eu lieu seulement en 1904 en France, hein, du moins d'une façon un peu définitive. Mais ce n'est pas vrai, c'est une séparation de l'État avec l'Église, c'est une coupure de l'État avec l'Église. Et cette coupure de l'État avec l'Église, elle porte un nom, apostasie. Et comme tous les États maintenant, poussés par Vatican II, les derniers États catholiques, ont officiellement coupé avec l'Église, en permettant la liberté religieuse et donc tous les faux cultes autour, eh bien, on arrive bien à la grande apostasie, c'est-à-dire que tout le mouvement contraire du début du christianisme. Et cela aussi, ça avait été annoncé. Donc, on n'a pas à s'en étonner. Eh bien, je vais terminer en faisant une application, Parce que nous avons vu cette réalisation-là. Au Moyen-Âge, le Christ a régné depuis Théodose à la fin du IVe siècle, depuis Clovis en 496, c'est cette année qu'on va fêter le 15e centenaire en France à la Noël, du baptême de Clovis, et donc du baptême de la France, de la première nation, la plus ancienne du monde, à avoir adhéré à l'Évangile. Eh bien, si ce n'est évidemment l'Empire romain qui, en tant qu'il n'existe plus, si ce n'est l'Église catholique elle-même, qui est le successeur spirituel de ce qu'était l'Empire romain sur le plan temporel, eh bien, toutes ces réalités, nous sommes appelés, nous, chacun d'entre nous, à la réaliser dans notre cœur. Car dans l'Écriture, sur le plan moral, les rois, qu'est-ce que c'est qu'un roi? C'est celui qui régit, celui qui commande. Les rois, et le terme de roi est employé dans ce sens-là, dans le sens moral, puisqu'il y a quatre sens des Écritures, eh bien, dans le sens moral, les rois, ce sont ceux qui savent régir leurs pensées, leurs désirs, leurs paroles, leurs actions, qui savent les commander et les diriger. Et de même que les rois dirigent les peuples, nous avons des peuples, des foules de pensées, de paroles, de désirs, etc. Eh bien, de même que les rois doivent diriger leur peuple et leur foule vers le Christ, de même nous autres, nous devons diriger nos pensées, nos paroles, nos actions vers le Christ. De même que eux, ils doivent faire respecter la loi du Christ par leur peuple, de même nous, nous devons faire respecter la loi de Dieu par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. De même qu'eux, ils doivent faire pénitence quand ils y manquent et qu'ils auront à rendre compte à Dieu de non seulement de leur propre faute, mais de celles qu'ils auront laissé faire à leur peuple. Eh bien, de même nous, nous aurons à rendre compte de chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions devant Dieu. Eh bien, voilà dans quel sens nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes cette parole, donc, qui était annoncée. Tous les rois, c'est-à-dire ceux qui se commandent eux-mêmes, parce que les autres sont pas maîtres d'eux-mêmes, donc sont pas rois dans ce sens-là, tous les rois, louez le Seigneur et adhérez à lui, adorez-le, et toutes les nations l'adoreront. Eh bien, cela reste vrai aussi pour les élus, car tout ce que nous avons vu, la chrétienté, etc., n'est qu'une pâle image de ce qui doit être réalisé au ciel. Au ciel, il n'y aura que des âmes semblables à celles des rois mages, c'est-à-dire qui auront su mettre leur orgueil sous leurs pieds pour vénérer cet enfant Dieu, pour vénérer Jésus aussi, pour accepter les lois de Dieu et pour savoir, comme tant de rois, plier le genou devant lui et chanter ses louanges dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.